Ce podcast est réalisé grâce à vos dons par l'association Les Jardins des Possibles de la Roanne. Retrouvez-nous sur jardindespossibles.org.
Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de l'agroécologie. On s'appuie pour ça sur un article assez éclairant qui la voit comme une vraie voie d'avenir pour l'agriculture. Une agriculture plus harmonieuse, disons.
Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est que ce n'est pas juste une technique, c'est présenté comme une science.
Car elle étudie les écosystèmes agricoles.
Les interactions entre les plantes, le sol, les animaux.
Voilà. Et sociale, car elle implique des changements dans les pratiques, mais aussi dans les systèmes alimentaires, l'économie locale. C'est large.
Et la mission derrière tout ça, c'est quoi alors ?
Ben, l'objectif décrit est assez ambitieux. Transformer nos systèmes agricoles. Les rendre durables, bien sûr, mais aussi plus autonomes et résilients. Capables de mieux encaisser les chocs, quoi.
Autonomes et résilients, ok. Et comment ?
En optimisant les interactions écologiques au sein même de la ferme. On essaye de tirer le meilleur parti de ce que la nature fait déjà. C'est là qu'on voit le contraste avec l'agriculture conventionnelle, souvent basée sur les intrants chimiques qu'on achète à l'extérieur.
Là, on chercherait plutôt à utiliser les mécanismes naturels.
Exactement. Les processus écologiques deviennent des alliés.
Il y a la durabilité, la résilience, l'autonomie, et puis la biodiversité et l'approche systémique. Ce lien avec la biodiversité, malheur central.
Ah oui, tout à fait. C'est vraiment au cœur du système. Le texte décrit ça comme un cercle vertueux, en fait.
Un cercle vertueux.
Oui. Des pratiques agricoles qui respectent l'environnement vont favoriser une plus grande biodiversité. Et cette biodiversité, elle rend des services essentiels à l'agriculteur. C'est gagnant-gagnant.
Quel genre de service ?
Par exemple, moins de pesticides. Ça protège les pollinisateurs, indispensables pour beaucoup de cultures, et toute la vie du sol, qui aide les plantes à se nourrir.
Logique.
Ou encore, diversifier les cultures, ça crée plein d'habitats différents pour toutes sortes d'espèces utiles. Maintenir des haies, des mares, ces infrastructures écologiques, comme on les appelle, deviennent des refuges. Et tout ça aide à réguler naturellement les populations de ravageurs.
Ce qui nous amène directement à la lutte biologique, j'imagine. Présentée comme un pilier.
Exactement. L'idée, c'est d'utiliser les ennemis naturels des ravageurs.
Les coccinelles contre les pucerons, ça, on connaît un peu.
Oui, c'est le classique. Mais il y a aussi les parasitoïdes, des petites guêpes qui pondent leurs œufs dans les ravageurs, ou même des bactéries, comme le Bacillus thuringiensis, le fameux BT, contre certaines chenilles.
Et les pollinisateurs, on l'a dit, qui sont aussi des auxiliaires précieux ?
Absolument. Mais attention, la lutte biologique s'inscrit souvent dans une démarche plus large.
Laquelle ?
La lutte intégrée. C'est une approche qui combine plusieurs méthodes, de manière réfléchie.
C'est-à-dire ?
On commence par la prévention. Des choix de culture, des rotations, pour limiter les risques dès le départ. Ensuite, on surveille attentivement les parcelles. Si un problème apparaît, on privilégie d'abord les méthodes biologiques, comme on vient de le dire, ou physiques ou culturales.
Et la chimie ?
Elle n'arrive qu'en tout dernier recours, si vraiment rien d'autre ne marche, et de façon très ciblée. C'est une différence avec le biocontrôle strict qui, lui, exclut totalement les pesticides de synthèse.
D'accord. Ça demande sans doute plus d'observation, de savoir-faire.
Oui, c'est moins une recette toute faite. Ça demande d'être à l'écoute de son champ.
Concrètement, sur le terrain, ça se traduit par quoi ?
Planter des haies, on l'a mentionné. Faire des rotations de culture pour ne pas épuiser le sol et casser les cycles des maladies. Choisir des variétés de plantes naturellement plus résistantes.
Le désherbage mécanique aussi, plutôt que chimique.
Oui, ou l'utilisation de cultures associées, où les plantes s'entraident, le paillage pour protéger et nourrir le sol, le compostage, les cultures de couverture pour ne jamais laisser le sol nu.
Une vraie boîte à outils, oui.
Passer à l'agroécologie, c'est une transition, un cheminement. C'est pas du jour au lendemain.
Il faut y aller pas à pas.
C'est ça. Observer, planifier, diversifier petit à petit, tester des choses à son échelle. Et surtout se former, échanger avec d'autres agriculteurs qui sont dans la même démarche. C'est un apprentissage continu.
Donc, pour résumer, l'agroécologie, c'est bien plus qu'une alternative technique. C'est une vision, une philosophie, presque, qui veut réconcilier l'agriculture et l'environnement.
Une vision où produire de la nourriture et protéger la nature ne sont plus opposés, mais vont de pair.
Avec un rôle central pour la biodiversité, la durabilité et aussi l'adaptation au changement climatique, j'imagine.
Absolument. Ça dessine un futur où le système alimentaire est plus responsable et où les agriculteurs sont vraiment vus comme des acteurs clés de cette transition écologique, des gardiens du paysage et de la santé des sols.
Et ça nous laisse avec une question, peut-être. Si on appliquait quelques-uns de ces principes, même à notre petite échelle, dans nos jardins par exemple, ou en choisissant de soutenir les fermes qui s'engagent dans cette voie, quel impact ça pourrait avoir au final sur l'ensemble du système alimentaire et sur nos écosystèmes ? Une question à méditer.
Une excellente question.
question pour conclure.
C'était un podcast, Les Jardins des Possibles de la Roanne. Merci de votre écoute. Et à très bientôt pour de nouvelles explorations fertiles.